Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Il y aura bien un acte 6, mais à quoi ressemblera-t-il ? Les Gilets jaunes ont, semble-t-il, l'intention d'innover dans leur mode d'action, en tout cas de délaisser Paris et ses quartiers chics pour se diriger plutôt vers le non moins chic château de Versailles et les stations de sport d'hiver. On fait le point dans un instant. Pour son retour sur le terrain aujourd'hui, Édouard Philippe a en tout cas pu constater que la colère était loin d'avoir disparu, alors que le Parlement a adopté tout à l'heure les mesures d'urgence en réponse à cette colère. Vote à main levée des sénateurs après celui des députés hier. Et maintenant, ce sont les fonctionnaires qui sont furieux. Ils ne toucheront pas la prime exceptionnelle réservée aux salariés du privé. Dans le Nord, on est au-delà de la maltraitance. Un enfant de 2 ans torturé par ses proches. Une meilleure prise en charge des perruques pour les femmes atteintes de cancer annonce loin d'être anecdotique. La sortie du prochain roman de Michel Houellebecq, ce sera le 4 janvier et c'est toujours un événement. Nicolas Caro, qui l'a lu en avant-première, nous dira ce qu'il en a pensé. Côté météo, demain pour le premier jour des vacances scolaires, ce sera encore gris et nuageux, mais un peu moins pluvieux. Et surtout, toujours aussi doux, avec des températures dignes d'un mois d'avril. C'est ce que nous dira Valérie Darmon à la fin de ce journal. Et puis votre rendez-vous, tous les soirs, 22h20, avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Guillaume Pitron, auteur de La guerre des métaux rares, livre qui a gagné le prix du livre de l'économie cette année.
Europe 1.
Et c'est donc la grande question, à quoi ressemblera l'acte 6? On a vu que la mobilisation des Gilets jaunes faiblit, mais leur détermination à poursuivre le mouvement reste visiblement intacte. En tout cas, ils ont prévu des actions qui pourraient prendre des formes un peu différentes des samedis précédents. Ce week-end, Paris pourrait être épargné, mais on ne sait pas, Victor Dolande, s'il faut prendre au sérieux les appels publiés sur les réseaux sociaux.
Oui, et l'exemple le plus frappant est sans aucun doute celui de Versailles. Éric Drouet, l'un des leaders des Gilets jaunes, a appelé sur une page Facebook à un rassemblement à Versailles à partir de 8h demain matin. Par précaution, le château de Versailles et le reste du domaine seront donc fermés au public toute la journée. Sauf que ce même Éric Drouet appelle les Gilets jaunes à se connecter sur les réseaux sociaux entre 5h et 6h du matin demain pour connaître le lieu exact du rassemblement. Selon nos informations, la ville de Versailles pourrait être en fait une diversion, un leurre pour mieux converger à Paris. Une autre figure des Gilets jaunes m'a également confirmé qu'ils avaient volontairement publié des fausses informations sur Facebook. Ils se sentent surveillés, m'a-t-il dit. Ils veulent donc brouiller les pistes. Mais la tendance à l'heure actuelle de la mobilisation, elle est surtout en région. Une carte a été particulièrement relayée ces derniers jours sur les messageries privées des Gilets jaunes. Sur cette carte, un appel à une opération Paris vide avec des actions dans 14 villes de province dont Lille, Toulouse, Bordeaux, Rennes ou encore Nantes. Enfin, les Gilets jaunes ciblent 2 autres endroits stratégiques, les frontières et les stations de ski. Des barrages filtrants sont d'ores et déjà prévus demain à Chamonix.
Les précisions de Victor Dolande, des Gilets jaunes qui ont reçu aujourd'hui la visite d'Édouard Philippe. En Haute-Vienne, le Premier ministre est venu faire le service avant-vente du grand débat public. Aurélie Herbemont, vous avez accompagné le chef du gouvernement pour ce retour sur le terrain. L'occasion pour lui de constater que la colère des Gilets jaunes n'était vraiment pas retombée.
Ah, effectivement, il a vu des gilets jaunes remonter sur son chemin au point de tenter une arrivée discrète à l'hôtel de ville de Limoges. Édouard Philippe ne se fait pas déposer devant l'entrée principale, mais il est repéré par les gilets jaunes et conspué. Ce retraité ne décolère pas.
J'ai plus de pognon pour vivre. Philippe, Macron, c'est des enfoirés qui se cassent.
Même colère un peu plus tôt devant la mairie de Saint-Thyrier où certains crient ordure au passage du cortège du Premier ministre. Édouard Philippe qui a échangé avec quelques gilets jaunes invités par les élus à huis clos, loin des caméras, histoire d'avoir un dialogue apaisé, dialogue qu'il a aussi voulu avoir avec les salariés d'une coopérative de pommes avec des questions récurrentes sur l'ISF et les 100 euros de prime d'activité.
Donc j'aurais voulu savoir si cette prime d'activité est possible d'être incluse sur le SMIG et non en prime d'activité.
Un système pas parfait, admet Édouard Philippe.
Il faut la demander à la CAF. C'est, je reconnais, pas hyper pratique.
Édouard Philippe qui rentre à Paris ce soir avec un cadeau du président des maires ruraux du département, une Marianne en porcelaine avec un gilet jaune.
Aurélie Herbemont qui était donc avec Édouard Philippe aujourd'hui en Haute-Vienne, alors que ce soir le Parlement a donné son feu vert aux mesures d'urgence pour répondre justement à cette crise. Prime exceptionnelle, heures sup défiscalisées, pas de hausse de la CSG pour une partie des retraités. Après les députés hier, les sénateurs ont donc à leur tour adopté ce texte, approuvé à main levée après 4 heures de débat. On est loin des 13 heures de la veille à l'Assemblée. Les sénateurs, les Républicains ont voté pour, pas par adhésion mais par responsabilité, selon leur chef de file Bruno Retailleau. Pour qui, lorsqu'il y a un incendie, on ne jette pas de l'huile sur le feu. Les socialistes, eux, se sont abstenus, comme les communistes qui avaient défendu en vain une motion préalable et prévenu que la dinde au marron n'étoufferait pas la colère. Les fonctionnaires, quant à eux, savent maintenant à quoi s'en tenir et ils sont très déçus, car ils ne toucheront pas la prime exceptionnelle, cette prime exonérée de charges pour les salariés qui touchent jusqu'à 3 600 € net par mois. Ce sera pour le privé uniquement, ce serait trop cher, estime le secrétaire d'État chargé de la fonction publique, près de 5 milliards d'euros. Sauf que pour les syndicats, la précarité, eh bien, elle concerne aussi les fonctionnaires. Denis Basset est secrétaire général FO Santé.
Dans les fonctionnaires, il y a beaucoup de gens qui sont dans la précarité. Il y a beaucoup de gens qui étaient des gilets jaunes, hein, des retraités qui étaient sur les barrages, qui ont aussi un problème de pouvoir d'achat, qui ont des difficultés de fin de mois. Et donc, il faut que le gouvernement apporte des réponses également à ces salariés-là. Enfin, nous, Force ouvrière, on va plaider pour avoir un mouvement de grève générale dans les hôpitaux, dans la fonction publique d'État et dans la fonction publique territoriale, mais qui soit suffisamment forte et longue pour obtenir une ouverture de négociation et des réponses à la hauteur de l'attente des salariés.
Le secrétaire général du syndicat FO Santé avec François Geffrier d'Europe 1. Le conseil de Bordeaux Métropole a voté aujourd'hui à l'unanimité une motion pour réclamer à Ford le remboursement d'1,7 million d'euros d'aide versée par la collectivité au constructeur qui, vous le savez, prévoit de fermer son usine de Blanquefort en Gironde. Ford a écarté l'unique offre de reprise du site émanant de la société franco-belge Punch Powerglide. 500 000 euros d'amende pour Total. Le tribunal correctionnel de Paris condamne le groupe pétrolier pour corruption d'agents publics étrangers, affaire liée à la signature d'un contrat gazier en Iran il y a 20 ans. Merci d'écouter Europe 1. Il est 22h06, c'est la suite de votre journal avec cette terrible affaire de maltraitance dans le Nord. 6 personnes mises en examen pour torture et barbarie sur un bébé, un enfant de 2 ans dont le pronostic vital est aujourd'hui réservé. Il souffre de multiples fractures et hématomes. Ce bébé a subi un calvaire, il n'y a pas d'autre mot, Kevin Tuillier.
Ah oui, le petit Yanis a vécu un véritable enfer. Pendant plusieurs jours, il a été le souffre-douleur de sa marraine et de son concubin en particulier. Pendant 2 soirées de décembre, dans leur maison mitoyenne d'Auberchicourt, où ils venaient d'emménager, ils ont infligé les pires sévices au petit garçon de 2 ans, servant de punching ball et même ses sordides de ballons de football. Dans le voisinage ce soir, c'est l'incompréhension qui domine.
C'est inadmissible de faire ça. Faire ça à un enfant si petit, quoi. Maltraiter un enfant, déjà, c'est une chose qu'on ne doit pas faire, quoi. Surtout en étant parent. Mmh. On fait des enfants et maltraiter des enfants, ouais, c'est pas, dans ces cas-là, on ne fait pas d'enfants. Quoi.
Très, très choqué. Quoi. C'est des personnes qu'on croisait de temps en temps, dehors, bonjour, bonsoir. Quand on a su ça tout à l'heure, ça nous a vraiment surpris. Et très, très choqué. Quoi. Après, en sachant qu'ils ont des enfants, c'est inadmissible d'avoir fait ça, quoi, sur un enfant. Quoi.
Au total, 6 personnes de 22 à 37 ans ont été arrêtées, tous évoluaient dans un milieu peu favorisé, selon le procureur de Douai. Le petit Yanis, lui, souffre de nombreuses fractures. Il a été plongé dans un coma artificiel à l'hôpital de Douai.
Kevin Tuillier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Une anesthésiste du Tarn, mise en examen pour meurtre, elle est soupçonnée d'euthanasie. Elle aurait injecté une dose létale à une patiente de 83 ans pour abréger ses souffrances. C'est elle-même qui a alerté l'hôpital de son geste. L'infirmière qui a injecté la dose mortelle sous l'autorité de l'anesthésiste a, elle, été placée sous le statut de témoin assisté. Elle n'a donc pas été mise en examen. Francis Holm, condamné en appel à la perpétuité dans l'affaire du double meurtre de Montigny-lès-Metz. Il dispose d'un délai de 5 jours pour se pouvoir en cassation. Ce qu'il compte faire, ont assuré ses avocats après l'énoncé du verdict. Peter Sherif, toujours en garde à vue à Djibouti. Le djihadiste a été interpellé il y a 5 jours. Il était proche des frères Kouachi et pourrait avoir joué un rôle dans la préparation ou l'organisation de l'attentat de Charlie Hebdo. Néanmoins, il n'est pas visé par un mandat d'arrêt dans cette enquête précisément. Les abominations des abus sexuels ne seront plus impunies. C'est la promesse du pape François en cette fin d'année. À ceux qui abusent des mineurs, je voudrais dire, convertissez-vous et remettez-vous à la justice humaine et préparez-vous à la justice divine. L'Église, dit-il, ne se ménagera pas pour faire tout ce qui est nécessaire afin de livrer à la justice quiconque aura commis de tels délits. Pour le président de l'association La Parole Libérée qui rassemble les victimes du père Prénat, il serait temps que le pape passe enfin des paroles aux actes.
Ça devient un peu décrédibilisant, ces prises de parole répétitives pour réaffirmer toujours des choses que toute l'humanité tout entière considère comme étant évidentes. Ce qui est important, c'est que chacun soit pleinement conscient de cette omerta qui a été si soigneusement cachée et dissimulée, de manière à ce qu'on puisse agir en conséquence face à une institution qui a un peu de mal à se réformer sur des choses qui sont quand même fondamentalement grave, il va falloir mettre en place les actions qui correspondent à cette prise de parole si l'Église peut retrouver la confiance de l'humanité qu'elle est en train de perdre.
François Deveau, le président de l'association La Parole Libérée, avec Jean-Gabriel Bourgeois d'Europe 1. Il est 22h10, vous écoutez Europe 1, et c'est une annonce qui va très certainement changer la vie des femmes atteintes d'un cancer. Le ministère de la Santé a en effet acté aujourd'hui une meilleure prise en charge des perruques. Un remboursement jusqu'à 350 €, c'était 125 € jusqu'à présent. Et c'est un progrès considérable pour Céline Lys-Raoux, la présidente de l'association Rosop.
C'est une grande avancée parce qu'avec 125 €, autant vous dire que la perruque qu'on peut acheter est une perruque de piètre qualité. 350 € de rembourser, c'est une perruque qui commence à être une perruque dans le moyen de gamme. Et par ailleurs, les fabricants de perruques se sont engagés à raboter un peu le prix de la perruque à 400 €. Donc finalement, aujourd'hui, les femmes qui voudront une perruque entièrement remboursée par la Sécurité sociale auront accès à une perruque qui aujourd'hui en monte à 400 €. Le but de la manœuvre était de permettre à toutes ces femmes pour qui le reste à charge était vraiment trop lourd et qui de fait n'achetaient pas de perruque aient accès sans reste à charge aucun à une perruque de qualité, et ça c'est vraiment une très très grande avancée.
La présidente de l'association Rosup, jointe pour Europe 1 par Ève Roger. C'est l'événement littéraire de la rentrée, la sortie du prochain roman de Michel Houellebecq. Ce sera le 4 janvier. On a la date, il n'a rien publié depuis 2015. Nicolas Carreau, vous avez pu découvrir ce livre en avant-première. Alors, est-ce que c'est un bon Houellebecq, Nicolas ?
Alors, c'est une forme de condensé de Michel Houellebecq, en fait, ou peut-être de l'idée qu'on s'en fait. Sérotonine, c'est le titre, et c'est un neurotransmetteur qui agit sur la régulation de l'humeur chez l'homme, donc de l'état de bonheur et de tristesse. Grand sujet houellebecquien, et c'est effectivement le sujet du livre. Le héros du roman a 46 ans, il s'appelle Florent-Claude Labrouste. Il n'assume pas du tout, d'ailleurs, ce prénom composé un peu étrange, Florent-Claude. C'est un homme gris, triste, l'incarnation de la solitude moderne. Il travaille au ministère de l'Agriculture, il est contractuel, très bien payé. Il vit avec une jeune japonaise, elle ne lui adresse quasiment pas la parole et ça l'arrange puisqu'il ne l'aime pas de toute façon. Il survit en fait grâce au Captorix, un antidépresseur. Tous les sujets houellebecquiens sont là. La géographie des territoires, la résignation, la tristesse, la pornographie aussi. Il se dégage du roman une mélancolie moderne et sublime. Assez sûr, on ne termine pas Sérotonine en souriant, ou alors c'est un sourire sinistre, mais on en sort peut-être un peu plus lucide. Un grand Houellebecq.
Sérotonine à découvrir donc le 4 janvier. Merci Nicolas Carreau, spécialiste littérature à Europe 1. Et puis on évoquait tout à l'heure les possibles perturbations engendrées par le mouvement des Gilets jaunes. Elles viendront s'ajouter, ces perturbations, aux traditionnels bouchons des départs en vacances, puisque la journée de demain est classée orange dans le sens des départs et même rouge en Ile-de-France. Alors pour ceux qui ont choisi le train, a priori, ils n'auront pas ce genre de problème. Vous êtes très nombreux dans les gares ce soir, des voyageurs souvent très chargé, à l'image de Frédéric et de sa famille, rencontrés tout à l'heure Gare de Lyon à Paris par Claudia Bertram.
Avec ma femme et mes filles, on va chez papy et mamie à la montagne. On va profiter de la neige, du beau temps. On va fêter Noël et le jour de l'an en famille. Alors les cadeaux, on est prêts, on a tout trouvé en temps et en heure, en s'y prenant un petit peu en avance. Il y en a une grosse partie sur place, il y en a une petite partie dans les valises.
Le sac des cadeaux, ça ?
Non, ça c'est... Si on le dit, je pense que la valise va être ouverte avant qu'on arrive.
Ouais.
Des vacanciers sur le départ, donc ce soir à la gare de Lyon, au micro Europe 1 de Claudia Bertram. Allez, on termine par une belle histoire de Noël qui se passe à Genève, en Suisse. Il y a un an et demi, des liasses de 500 € déchirées avaient été retrouvées dans les toilettes de plusieurs cafés et restaurants de la ville. Et bien, après plus d'un an d'enquête, la justice a finalement décidé d'offrir ce pactole de plusieurs dizaines de milliers d'euros aux employés qui l'ont découvert. Et nous, on va jeter un œil tout de suite sur la météo avec vous, Valérie Darmon. Valérie, quel temps pour ce début de vacances ?
Eh bien, de mieux en mieux, Isabelle. Alors demain, c'est encore gris et nuageux. Il faut prendre son mal en patience et un petit peu moins pluvieux. On va retrouver la perturbation d'aujourd'hui avec des pluies éparses du Poitou au nord de Midi-Pyrénées jusqu'aux Alpes où il va neiger aux alentours de 2000 mètres. À l'arrière, le ciel de Trène est très nuageux avec des averses et un vent entre 50 et 80 km/h de la côte d'Opale jusque sur les frontières nord, jusqu'en Bourgogne et en Franche-Comté. Et le temps qui va rester ensoleillé et sec du pourtour méditerranéen aux Pyrénées. L'après-midi, quelques trouées ensoleillées apparaissent tout de même depuis la Bretagne jusque sur le bassin parisien. Les températures sont toujours dignes d'avril alors que l'hiver, c'est donc aujourd'hui. Et pour la journée de dimanche, pluie et nuages sur les deux tiers nord, ensoleillé de la Gironde aux Alpes-Maritimes, toujours aussi doux pour tout le monde.
La météo, signée Valérie Darmon sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h15 sur Europe 1, on s'intéresse tout de suite à la bourse avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Isabelle.
Bonsoir. La Wall Street termine dans le rouge, Claire. Une semaine très difficile. Hein.
Oui, troisième séance de baisse pour les marchés qui dépriment encore plus depuis la réunion de la Fed mercredi soir. Le Dow Jones perd 1,81%, 22 445 points. Le Nasdaq chute de 2,99%, 6 333 points. La semaine qui se termine aura donc été calamiteuse pour les indices. Le Dow Jones a plongé de près de 7% sur les 5 dernières séances. Le Nasdaq, lui, lâche plus de 8%. Les investisseurs sont donc très inquiets. Et ils ne sont pas aidés ce soir par Donald Trump qui menace toujours de bloquer l'administration fédérale s'il n'obtient pas les crédits pour son mur à la frontière avec le Mexique. Le président menace d'un très long blocage, ce qu'on appelle un shutdown aux États-Unis. De quoi fragiliser donc un peu plus les marchés. Ce soir, les valeurs financières sont en première ligne. Goldman Sachs plonge de 5%, Mastercard de 4%. Ça reste très tendu pour les géants d'Internet. Apple, moins 3,9%. Amazon, moins 5,7%. Seul Nike surnage en forte hausse, même plus 7% après de bons résultats trimestriels. L'euro repart en forte baisse. Il perd 0,7%, 1,1361 $.
Et le marché parisien, lui, a terminé à l'équilibre. Une semaine très difficile.
Oui, le CAC 40 se stabilise ce soir après être tombé hier à son plus bas niveau depuis 2 ans. Ça donne une hausse très symbolique de 0,04%, 4 694 points. Sur la semaine, le CAC affiche encore un bilan difficile. Il a perdu plus de 3%. C'est du vert ce soir pour les équipementiers automobiles qui poursuivent leur mouvement de yo-yo. Faurecia grimpe de 5% grâce à une note positive d'analyste. Plastic Omnium et Valeo en profitent aussi pour gagner du terrain. Renault gagne 1,3%. Son patron Carlos Ghosn reste en prison à Tokyo. De nouvelles accusations sont venues alourdir son dossier aujourd'hui. Et sur le CAC 40, ST Microelectronics monte aussi de 3% et Vivendi de 1,1%.
La séance qui en revanche a été très agitée pour Technicolor.
Technicolor plonge de 12,8% après un nouvel avertissement. Ça signifie que le groupe ne tiendra pas ses objectifs de résultats. Beaucoup de nervosité ce soir encore sur les bourses européennes. Quelques jours de Noël, à Francfort, le DAX gagne 0,2%. Londres s'adjuge 0,1%. Ça baisse pour Madrid, moins 0,2%. Pour Bruxelles, moins 0,5%. Moins 1% pour Milan. Et le CAC 40, lui, est stable, plus 0,04%. 4 694 points.
Eh bien, merci beaucoup, Claire Lemaître de Boursier.com. Je vous souhaite un excellent week-end. Et à 13h18 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité éco avec vous Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir Guillaume Pitron, auteur de La guerre des métaux rares.
Bonsoir Guillaume Pitron.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous avez écrit La guerre des métaux rares aux éditions Les Liens qui libèrent. Et si on a eu envie de vous inviter, c'est que vous venez de gagner le trophée du livre de l'économie. Alors j'ai la chance d'être parmi les jurés de ce trophée, donc c'est pour ça qu'on a envie de vous recevoir ce soir. Et au-delà de ça, on aurait dû vous recevoir parce que vous avez écrit le livre de demain. Là, beaucoup de gens vont s'offrir des téléphones portables à Noël. Et quand on lit votre livre, on se dit que peut-être qu'on devrait revenir au téléphone fixe. C'est quand même ça l'idée.
Le téléphone fixe, il y avait environ une douzaine de métaux dedans, dans les années 50. Et puis après, on est passé au téléphone, les gros GSM dans les années 90, qui faisaient la taille d'une brique. Et dedans, on a mis 29 métaux. Mmh. Et les téléphones portables d'aujourd'hui, les petits smartphones, il y a 55 métaux dedans. Donc plus on devient moderne, plus les technologies deviennent complexes, efficientes. Et simplement, cette complexité, eh bien, c'est toujours plus de matières premières à aller chercher quelque part.
Parce que c'est ça vraiment l'idée de votre livre. C'est de dire que parce que ce sont des métaux rares, ce sont des métaux qui sont à l'origine quasiment de guerres géopolitiques du quotidien. C'est ça l'idée de votre livre.
Nous utilisons de plus en plus de ces métaux. Nous utilisons aujourd'hui la quasi-totalité de la table de Mendeleïev, près plus de 80 métaux. Et aujourd'hui, nous allons devoir, et pour demain, aller extraire ces métaux dans des quantités absolument colossales. Notre siècle qui arrive, qui débute, le 21e, sera un siècle de métal. Compte tenu des gigantesques besoins pour les technologies vertes et les technologies numériques, ça va être le pendant du pétrole au 20e. Et oui, il faut bien aller chercher ces ressources quelque part. Et qui dit qu'il faut aller chercher dit qu'il y a des enjeux géopolitiques, économiques et écologiques colossaux qui sont en train de se cristalliser. Donc l'âge de métal n'est pas forcément un âge extrêmement empreint de sobriété, ça va être un âge passionnant mais très compliqué aussi.
Par exemple, tout le monde nous parle aujourd'hui de la voiture électrique, mais on ne sait pas demain comment on va récupérer le lithium, comment on va l'extraire et puis comment on va le recycler. C'est vraiment ce qui ressort de votre livre.
La voiture diesel, on nous a longtemps dit que c'était génial. Après, on nous dit un jour, bah finalement, c'est pas si génial, il faut en changer. Et puis, pourquoi ne pas acheter la voiture d'après, la voiture électrique, qui est géniale, bien évidemment. C'est toujours présenté comme une technologie miracle. Moi, je peux vous dire, quand on rentre un peu dans le détail, la voiture électrique, elle est bourrée de toutes ces matières premières. C'est d'immenses enjeux d'extraction, de raffinage, de recyclage.
Quand on referme votre livre, on n'a pas envie de s'acheter une voiture électrique, ça c'est sûr.
La voiture électrique n'est pas propre du tout. C'est une voiture qui également est sale, génère son lot de pollution. Simplement, cette pollution, comme ce sont d'autres pays qui l'assument à notre place, là où on extrait ces matières rares, eh bien, c'est une pollution qui est finalement délocalisée, déportée, invisible. Et puis nous roulons dans nos villes et nous disons, regardez comme nous sommes propres. Et on peut parier, on peut penser, comme le dit Carlos Tavares, le PDG de PSA Peugeot, que dans quelques années, on va découvrir que tout ça n'est pas si propre que ça n'en a l'air. Et puis alors, ce jour-là, on fera quoi? On dira, non, mais finalement, les voitures électriques, c'est pas la bonne solution. Mais nous avons une solution miracle, allez acheter la voiture à hydrogène. Et là, vous allez revoir des gilets de toutes les couleurs descendre dans la rue en disant, non, mais ça va se répéter longtemps, cette histoire. Donc, ce que l'on voit, c'est que on ne va pas sauver la planète en changeant juste de technologie. Quoi. Si on croit qu'en changeant de technologie, on va sauver les libellules et les orang-outans, non, ça va être beaucoup plus compliqué.
Oui, parce qu'on
ne sauve
pas la planète parce qu'on détruit des territoires qui sont loin de chez nous, par exemple en Bolivie pour le lithium ou ce genre de choses. Ouais. Mais ce qui est aussi passionnant dans ce que vous racontez et qu'on ne mesure pas quand on achète un téléphone portable ou quand on achète une voiture électrique, c'est notre dépendance à ces pays. Alors, on a un petit peu l'idée sur les panneaux solaires ou ce genre de choses, mais pour pouvoir produire tout ce genre de produit, il faut être totalement dépendant de pays qui sont, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ce que vous dites dans votre livre, pas tout à fait propres.
Non, vous savez, l'OPEP, c'est 40% de la production de pétrole. Les terres rares, qui est une classe de métaux rares et d'autres métaux, c'est jusqu'à 95% de la production qui est entre les mains d'un seul pays, c'est la Chine. Et nous avons laissé à la Chine le soin d'extraire tous ces matériaux très salissants pour nous, parce que nous ne voulions pas supporter le fardeau de ces terres rares et de ces métaux rares et donc des technologies vertes. Et à l'arrivée, nous avons confié le monopole de ces métaux à des pays qui tiennent des ressources stratégiques. Et là, vous voyez toutes les cartes géopolitiques qui sont en train de s'abattre. La Chine dit stop, je ne vous vends plus mes métaux à un prix coûtant, je vais essayer de les valoriser pour mon propre développement économique, je ne vais pas vous vendre mes matières rares, mais je vais vous vendre ma voiture électrique avec la matière rare à l'intérieur, mais vous achèterez le produit fini et non pas le composant. Et puis c'est les emplois verts de demain, mais c'est moi la Chine qui vais les développer sur mon territoire. Est-ce que cette transition énergétique, ça va pas être d'abord une transition chinoise? C'est ce que je crois, la Chine a les ressources et donc elle a le leadership des
technologies
vertes.
Mais vous dites dans votre livre que peut-être que la France est un géant des minières rares qui ne le sait pas.
Elle l'a été, on l'a un peu oublié parce qu'il y a 30 ans, il y avait encore des mines, mais aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Mais on pourrait tout à fait ouvrir des mines de métaux rares en France. On pourrait ouvrir par exemple des mines de tungstène. Et puis peut-être que ce serait bien d'avoir cette souveraineté minérale parce qu'on dit que c'est bien d'être souverain sur le plan alimentaire ou énergétique, mais à un moment, avoir ces ressources pour ne pas dépendre de la Chine, c'est peut-être une bonne idée. Donc la question va devoir se poser d'être cohérent entre nos modes de consommation qui sont fortement consommateurs de ces ressources et les impacts écologiques et la sécurité stratégique qu'il faut bien assumer à un moment ou à un autre.
Mais pour autant, on voit à quel point ça peut être compliqué d'imaginer d'ouvrir des mines ou ce genre de choses en France.
Ça génère déjà un débat fou et le simple fait d'aller éventuellement explorer un gisement en soi, c'est déjà excessivement compliqué. Il y a des tensions avec les communautés riveraines en France, donc c'est pas demain qu'on ouvrira des mines. Mais il faut bien comprendre que nous sommes pris à nos contradictions. Nous voulons tout le meilleur de ce monde technologique merveilleux qui nous est vendu à coup de publicité pour Noël, mais nous ne voulons pas assumer tous les transferts de pollution et puis de tensions sociales dans les mines de cobalt. C'est des enfants qui travaillent aussi dans les mines de cobalt au RD Congo. Et nous ne voulons pas assumer tous ces enjeux qui sont intrinsèquement liés à ces matières premières et il va falloir que nous sortions de ces contradictions.
Mais quand vous dites nous ne voulons pas assumer, est-ce que vous pensez qu'il faut mieux nous éduquer pour qu'on sache finalement, un peu comme sur la viande, la transparence, ce genre de choses. Est-ce que vous pensez qu'il faut en arriver là pour ce genre de produits technologiques ?
Nous avons perdu la culture des matières premières.
C'est totalement ce qui ressort de votre livre, ça.
Vous savez à peu près à quoi ressemble du pétrole, encore que le pétrole à la pompe, vous n'avez aucune idée, moi non plus d'ailleurs, d'où il vient. Et personne n'a démonté, ou peu de personnes ont démonté un téléphone portable pour regarder quels sont les composants et qui plus est les métaux à l'intérieur. Et donc cette absence de culture des ressources fait que nous n'avons pas la moindre idée de tout ce qui se trame à l'intérieur de nos téléphones et sous le capot de nos voitures électriques et autres. À un moment, je pense qu'il faut que nous réapprenons cette culture et ça passe pour le consommateur par exemple des labels ou des indicateurs qui permettraient de comprendre qu'est-ce que l'empreinte matière de nos technologies, c'est quoi la vérité écologique de nos technologies. Vous parlez du téléphone, vous savez combien il faut de kilos de matière pour un téléphone de 120 grammes à l'arrivée. Pour 120 grammes à l'arrivée...
Je le sais parce que j'ai lu votre livre, c'est écrit dedans.
Il faut 70 kilos de matière en amont. Donc il y a 600 fois plus quasiment de matière mobilisée en amont pour arriver à ce petit produit de 120 grammes. Comment est-ce que nous éduquons nous-mêmes à la réalité de cette empreinte matérielle et technologique ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'au dos de nos téléphones, il y ait marqué « Vous voulez un nouveau téléphone ? Eh bien on va faire un trou là ». D'équivalent de 70 kilos de terre pour que vous puissiez avoir ce téléphone-là. Et donc, je pense que les indicateurs pour le consommateur sont absolument indispensables pour que nous retrouvions cette culture des ressources sans laquelle nous ne comprenons pas les enjeux du monde dans lequel nous sommes en train de nous lancer avec ces technologies.
Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Guillaume Pitron, qui a donc écrit « La guerre des métaux rares » aux éditions des Liens qui libèrent. Merci beaucoup.
Merci.
À très bientôt et merci à vous, Emmanuel Duteil. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les infos que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Carlos Ghosn, l'histoire d'une descente aux enfers, titre Le Figaro. Le journal revient sur l'incroyable affaire qui mêle soupçons sur le train de vie du PDG et bataille pour le pouvoir chez Renault-Nissan. Carlos Ghosn qui finalement ne sortira pas de prison tout de suite après un nouveau rebondissement judiciaire aujourd'hui. Le PDG de Renault a fait l'objet d'un troisième mandat d'arrêt au Japon sur des charges supplémentaires anéantissant ses espoirs d'une libération immédiate. Le journal Libération consacre quant à lui sa une à la frontière mexicaine. L'Amérique en ligne de murs, titre le journal, dont la reporter Isabelle Hahn a longé les 225 kilomètres qui séparent la Californie du Mexique. De part et d'autre, des pans de murs et des clôtures hérissées pour stopper l'immigration centra-américaine. Une zone où convergent rêves, trafic, violence et fantasmes. La journaliste de Libération a capté au plus près l'attente des candidats à l'asile, les espoirs déçus et de chaque côté, la violence. Une affaire de conscience, c'est à lire cette fois dans le journal L'Alsace avec l'édito de Jérôme Arnoux qui nous parle de la richesse. À condition que sa source soit légale, écrit-il, la richesse n'est pas un défaut, encore moins une honte. Après tout, ça peut arriver aux meilleurs comme aux gens les plus détestables. Certes, les Français plus que les autres ont un problème avec l'argent, question de mentalité. Dans l'Hexagone, les riches sont traditionnellement montrés du doigt. Situation absurde qui n'est pas prête de s'arranger alors que les associations d'aide aux plus démunis lancent un cri d'alarme. En cette fin d'année, les dons sont en effet en chute vertigineuse. Quelques mois seulement après la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, la concomitance n'est pas le fruit du hasard. Il y a bel et bien un rapport de cause à effet qui interpelle. L'argent assécherait-il le cœur ? Pour le coup, voilà bien une bonne raison qui justifierait le rétablissement de l'ISF. Si les riches sont plus généreux quand l'État permet de déduire une partie des dons de leur impôt, le gouvernement pourrait rétablir l'ISF et permettre ainsi une défiscalisation totale des dons. Plus sérieusement, les gens fortunés concourent par l'impôt sur le revenu à la solidarité nationale, comme tous les Français, de manière proportionnelle, à partir d'un certain seuil. Mais n'y a-t-il pas un devoir moral, quand cela est possible et à la hauteur des moyens de chacun, d'aider les plus nécessiteux et de faire avancer les nobles causes ? C'est supposé être une règle pour les croyants des grandes religions monothéistes. C'est surtout une affaire de conscience. Et cette question de conscience n'est pas seulement l'affaire des gens les plus fortunés. Elle se pose aussi aux pouvoirs publics qui doivent trouver une solution pour remédier à une situation qui, si elle se confirme, aboutira à la disparition de nombreuses associations caritatives dont l'utilité publique n'est plus à démontrer. Et puis accueillir l'inattendu, c'est ce que titre demain matin le journal La Croix qui en cette veille de Noël a rencontré des témoins qui ont su vivre comme une chance des événements imprévus. Et c'est un beau message d'espoir et on en a bien besoin en ce moment. Voilà pour ce tour d'horizon des unes de la presse que vous retrouverez donc dans vos kiosques demain matin. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en votre compagnie, Sabine Marin pour la Libre Antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Isabelle. Comment allez-vous?
Ça va bien, je vous remercie. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point, c'est ça, tout à l'heure.